Bonjour à tous, bonjour Estelle.
Bonjour Mathieu.
Bienvenue dans l'Écho Local, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire en direct sur Couleur FM tous les jeudis à midi et en rediffusion le vendredi à 19h, le samedi à 7h et le dimanche à midi. Vous allez savoir ce qu'il se passe au cœur de vos territoires berjaliens.
Une heure d'information, d'agenda, d'actu, de vie associative et culturelle, de musique, de chroniques et d'invités.
Premier opus de l'année de l'Écho Local, le menu radiophonique consacré à notre territoire.
Au programme aujourd'hui, on va parler culture, mais pas que. Madame Zanettacci, archéologue à Vienne, va nous parler du patrimoine historique de notre territoire en mettant en avant les dernières trouvailles de cet hiver.
Tissu associatif, Thomas et Alizé, deux services civiques au sein de l'UMIGE, Union Mutualiste pour l'insertion des jeunes, parlent du projet de l'accorderie à Bourgoin-Jallieu visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion.
Puis Rémi Bastard, responsable de la vie fédérative associative à la Ligue de l'enseignement de l'Isère, il nous explique comment créer une association en étant mineur, sans oublier évidemment la chronique cinéma de Véronique Boulieu, elle nous présentera les films à ne pas rater en ce début d'année.
Également nos petits reporters des écoles du territoire, les élèves de l'école de l'INÉ à Champfleury, sont allés à la rencontre et interviewer un grand sportif du territoire, le célèbre boxeur Brahim Asloum.
Et pour le dessert, Mathieu nous présente une grande artiste jazz soul américaine et jamaïcaine et maintenant parisienne. Shola Adissa Farrar a sorti son premier album Lost Myself. C'est le disque de la semaine.
Tisser du lien social, c'est une de nos thématiques phares dans l'écho local. Aujourd'hui, on va parler en détail du projet de l'accorderie qui vise à renforcer les solidarités entre classes sociales dans le territoire. Estelle Gély est allée à la rencontre de Thomas et Alizé, deux jeunes en service civique au sein de l'UMIGE. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que l'UMIGE ?
Alors, l'UMIGE, c'est l'Union Mutualiste pour l'insertion des jeunes. Donc, c'est une association qui se trouve sur le département de l'Isère et qui a pour objectif en fait, d'aider les jeunes à s'insérer dans le monde professionnel ou à finaliser leur projet d'études ou de stage à travers un accès au logement facilité. Donc, en fait, ils ont deux foyers de jeunes travailleurs, plusieurs. Ils en ont à Grenoble, à Bourgoin-Jallieu, à Villefontaine et il y en a encore d'autres en Isère. Et donc, c'est des foyers avec des loyers un peu aménagés où on les aide pour les démarches d'APL, ce genre de choses. Voilà, donc, en fait, on trouve vraiment tout type de jeunes. Il y a des jeunes qui sont là pour des stages, d'autres pour des poursuites d'études, d'autres pour un emploi, d'autres qui sont dans un cadre de réinsertion, programmes départementaux, en fait. Où, nous, par contre, l'UMIGE est aussi assez impliqué au niveau associatif sur le département de l'Isère. Et par exemple, a aidé à mettre en place l'accorderie de Grenoble et donc, du coup, nous soutient dans le projet de mettre en place une accorderie dans les environs de Bourgoin-Jallieu, Villefontaine, etc.
Qu'est-ce que l'accorderie, justement, au niveau du Nord-Isère, ça va être quoi ?
Une accorderie, à terme, c'est une association indépendante. Il y a plusieurs caractéristiques propres à l'accorderie par rapport à d'autres systèmes d'échange qui existent. Donc, dans une accorderie, il y a obligatoirement un local qui permet aux membres de se rencontrer dans un lieu donné. Il y a obligatoirement un salarié aussi qui est là en garant du bon fonctionnement de l'association. Et en fait, une accorderie fonctionne sur de l'échange de services. Donc, en gros, pour une heure de service rendu égale une heure de service reçu. Et ça peut aller du cours de guitare, mais aussi à l'aide aux courses. Parce que moi, j'ai une voiture, je peux faire profiter cette voiture à quelqu'un d'autre qui n'en a pas. Ça peut être toutes sortes de services et pas seulement des savoir-faire.
Alors aujourd'hui, on en est où dans la création de l'accorderie ?
Alors aujourd'hui, on est vraiment au début du projet, c'est-à-dire que ça fait un peu plus d'un mois qu'on a commencé à travailler sur ce projet en service civique. Donc notre objectif à l'heure actuelle, c'est de faire en sorte que des personnes du territoire qui sont intéressées par le projet se rencontrent et nous rencontrent pour mettre en place un collectif porteur de projet, parce qu'un tel projet, si ça vient pas des habitants, des collectivités, etc., on sait que ça se montrera jamais. Et comme nous, on est un service civique, qu'on est là pour un temps limité, il faut qu'il y ait des personnes motivées qui puissent prendre la suite. Donc pour l'instant, on est vraiment au tout début, on essaye de faire rencontrer ces personnes, et une fois qu'on aura monté ce collectif, on va entrer dans une démarche plus classique, créer une association, chercher un local, chercher des financements. Donc ça peut se passer rapidement, comme ça peut être plus long. La plupart du temps, sur l'expérience des accorderies qui existent déjà, c'est un an et demi minimum pour créer l'accorderie.
Donc aujourd'hui, il y a déjà un collectif. Vous avez rencontré des personnes qui sont intéressées par ce projet ?
On commence simplement à rencontrer des personnes. Alors non, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment de collectif. Nous, on essaye de fédérer des gens autour de ce projet-là, mais il n'y a pas vraiment de collectif constitué pour le moment.
Donc quelles sont les étapes, justement, pour 2017 ?
Alors, pour l'instant, on a une grosse échéance en 2017 pour nous, c'est le 11 janvier, à la résidence Le Renouveau de Lumiche qui est au 11 place Albert Schweitzer à Bourgoin. Donc on va faire une réunion de présentation publique ouverte à tous où on va présenter le fonctionnement de la corderie, le projet, les étapes. On va essayer de faire venir une personne qui est accordeur, c'est-à-dire qui est membre d'une accorderie, donc de Grenoble ou des Avenières, ça dépend, enfin des accordeurs avec lesquels on est en contact, pour faire part un peu de son expérience. Et donc pour nous c'est une grosse étape, c'est là qu'on va vraiment rencontrer des gens et peut-être rencontrer des personnes qui vont pouvoir s'intégrer dans le collectif. Donc là c'est notre première grosse échéance de 2017 et pour l'instant c'est vraiment la seule, puisqu'on cherche vraiment à monter ce collectif avant de commencer toutes les démarches, parce qu'on veut intégrer les futurs membres à la création en fait.
Comment vous vous y prenez pour attirer les gens vers ce projet?
Là on va prendre contact surtout avec tout ce qui est maisons de quartier, associations qui existent à Bourgoin-Jallieu et à Villefontaine. Après, on a aussi une page Facebook. On a créé une page Facebook qui s'appelle « Pour une accorderie aux portes de l'Isère ». Donc, ça nous permet aussi de communiquer sur les réseaux sociaux et de faire passer des informations aussi, puisque il y aura certainement d'autres événements, d'autres rencontres en 2017. Et donc, ça nous permet de communiquer là-dessus.
On voit vraiment notre mission comme celle de faciliter le projet. Comme on est en service civique, qu'on est à plein temps sur ce projet-là, on va dire qu'on est vraiment là pour, comme facilitateur pour la suite. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment déblayer le terrain pour le collectif, préparer tout ce qui est démarches administratives, etc. Et on espère que ça puisse être justement rassurant pour les gens, parce que comme c'est un gros investissement, le fait qu'il y ait pendant 8 mois 2 personnes à plein temps dessus, ça va vraiment faciliter le travail. Donc nous, on est plus là pour monter le collectif et déblayer le terrain. Et puis après, on espère que quand on sera parti, ça sera lancé et ça verra le jour. Et puis si on est encore dans le coin et disponible après, moi je pense rester investi sur le projet à la fin de ma mission de toute façon.
C'était le portrait du jour avec Thomas et Alizée, deux jeunes services civiques au sein de Lumige, interviewés par Estelle Gély. On continue à parler associatif, mais avant cela, on marque une courte pause musicale avec le groupe de hip-hop marionnette allemand, Puppet Mastaz. Ils seront en concert à la SMAC Les Abattoirs à Bourgoin-Jallieu le 31 mars 2017, dans le cadre du festival Electrochoc. Puppet Mastaz, Do The Swamp.
Take it to the swamp, man. Do the swamp. Everybody stand up. Clap, slap, jump, do the bump, they bump, do the swamp. Everybody stand up. Clap, slap, jump, do the bump, they bump, do the swamp. Everybody stand up. Clap, slap, jump, do the bump, they bump, do the swamp. Everybody stand up. Clap, slap, jump, do the bump, they bump.
Bully, 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 wella, wella, wella. A new acapella coming at your fella. Ziggy, 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 shaka, laka, laka. Mr. Malaka with the new fatherfucking rocker. Presetti, it's all thanks to you that these niggas got the brand new dance to do. They just sick and tired of the same old, same old. They wanna break the mold and boldly go where no flow's gone before. Oh, up and down, all around, beyond, below. On top of the bottom, in the middle of the near end. Through the swamp, pitch, pucker, booze your rear end. It's a spasmodic type of action. Cause body mashing is always in fashion. So put your hands together. We'll make that sound. It's a clap, it's a slap, it's a jump off the ground.
Do the swamp. Everybody stand up. Clap, slap, jump, do the bump, they bump, do the swamp. Everybody stand up. Clap, slap, jump, do the bump, they bump, do the swamp. Everybody stand up. Clap, slap, jump, do the bump, they bump, do the swamp. Everybody stand up. Clap, slap, jump, do the bump, they bump.
Up from the analog underground. Humping big booty with my thunder pound. Humping big booty from my thunder ground. Just staring at, I'll be wearing a hat like a mad hatter. Bat your ass back to base like a bad batter. Fuck you, I don't flatter. We tried to be nice, we tried to be just, but you just wanted the same old mother. Here you got it. Take that behind your back. Knuckles got the beat to make your booty go. Take that behind your back. Frogger got the beat to make your booty go.
Say, I wish you was mine. Dance floor, so you know I bust the move. Hip hop, the tits rock, so you know the shit's mine. We bring it up, then we start to bring it down. The hammerhead bites, so don't ever fuck around. I'm just a puppet trying to prove my stock. A puppet master who can mind up if you like spot.
Do the swamp, everybody stand up. Clap, slap, jump, do the bump, they bump. Do the swamp, everybody stand up. Clap, slap, jump, do the bump, they bump. Do the swamp, everybody stand up.
clap, slap, jump to that bomb, tape bomb, to that swamp. Everybody stand up, clap, slap, jump to that bomb, tape bomb.
Clap, clap, do what you like.
C'était Poupette Mastaz, Dove Swamp, le groupe allemand chanté par les Marionnettes, qui se produira le 31 mars dans le cadre du festival Electrochoc à la SMAC Les Abattoirs à Bourgoin-Jallieu. Il est midi passé, si vous nous écoutez pas en rediffusion, vous êtes dans l'écho local en direct de Couleur FM avec nous jusqu'à 13h. Vous êtes mineur et vous voulez créer une association, c'est possible. Je suis allée à l'encontre de Rémi Bastard, responsable de la vie fédérative associative à la Ligue de l'enseignement de l'Isère.
Alors, il y a différents scénarios possibles où les personnes ont voulu créer leur junior association, sont allées directement sur le site national, ont rempli les documents, nous les envoient et à ce moment-là, on reçoit et on essaye de prendre contact avec eux pour en connaître un peu plus de leur projet afin de donner un avis constructif parce qu'un dossier papier ne suffit pas. Il manque toujours quelque chose où on ne sent pas l'essence même du projet. Donc, c'est important. L'autre scénario, c'est que souvent des éducateurs ou des enseignants veulent accompagner des jeunes qui veulent monter une structure, procéder. Donc à ce moment-là, on leur explique comment ça se passe, le procédé d'aller sur le site national pour sortir un dossier et on leur explique comment remplir le dossier et surtout de faire tout un travail en amont, de savoir pourquoi ils veulent constituer leur junior association, quel est le but, comment ils vont valider les choses, comment ils vont s'organiser pour qu'ils soient accompagnés par l'adulte référent, mais pas que l'adulte référent soit celui qui va diriger la junior association. C'est souvent le point difficile entre l'autonomie et la directive des plus grands, puisqu'il faut, c'est de 13 à 18 ans, on peut avoir des majeurs dans la structure, mais par contre les décideurs doivent être des mineurs. C'est un résumé, mais en gros c'est ça.
D'accord, donc de 13 à 18 ans.
Oui, c'est ça. De 13 à 18 ans. Après, on peut les transformer en juniors classiques. Donc, ça devient une junior association majeure pendant le temps que l'association soit réellement créée. Donc, c'est un accompagnement. Ou d'autres jeunes continuent à prendre le relais de cette association, puisqu'il y a un renouvellement annuel. La période, c'est un an. C'est une période scolaire. C'est-à-dire que ça va de fin octobre à fin septembre. Ça coûte 15€ par an, parce que ça couvre aussi l'assurance, puisqu'on leur propose et on les assure dans le cadre de la junior association. Donc c'est national et c'est vraiment très très important parce que c'est une notion souvent que les jeunes oublient, mais il y a des risques, donc il faut être couvert au niveau assurance.
Est-ce que vous avez des exemples à me donner d'associations, de junior associations qui ont été créées par exemple ces dernières années?
Alors oui, on en a quelques-unes. Il y en a qui se sont faites sur le skate. Là en ce moment, on accompagne au lycée de Visil des jeunes qui sont créés. Ça a été un peu long parce que le projet, ils n'avaient peut-être pas bien compris ce qu'était une junior association. Donc c'est un projet de solidarité pour amener des graines à Madagascar, donc pour que la population puisse les planter. Là, on a les têtes de l'Iliotte qui ont un projet. C'est des jeunes filles qui ont envie de s'engager sur des solidarités. Il y a une association de jeunes qui ont fait du théâtre, qui ont créé une petite compagnie de théâtre. Il y en a d'autres qui ont créé un groupe de musique. Voilà, c'est divers et varié. Il y en a d'autres qui ont voulu faire pour la défense des chats. Tout est possible, à condition que ça soit bien structuré et bien accompagné.
Par exemple, sur Bourgoin-Jallieu, vous avez une antenne?
Il n'y a pas d'antenne aujourd'hui, puisque malheureusement, avec les problèmes d'éducation populaire et la remise en cause d'un certain nombre de membres de MJC, aujourd'hui on était 3 référents. Les 2 autres sont toujours inscrits comme référents, mais ils ne peuvent pas vaquer à leur responsabilité, puisqu'ils ont eu des soucis de baisse d'effectifs, de postes. Par contre, aujourd'hui, obligatoirement, une junior association est accompagnée par un adulte. On ne peut pas déposer un dossier si on n'est pas accompagné, sauf cas très exceptionnel, mais la volonté, c'est vraiment de trouver un adulte qui peut les accompagner au quotidien, puisqu'un référent départemental ne peut pas tout faire.
Est-ce que vous sentez une évolution ou au contraire, les jeunes ont toujours été attirés par le bénévolat?
Moi, je crois que les jeunes, ils ont envie de rêves. On leur donne la possibilité d'avoir des rêves. Les junior associations, c'est une possibilité d'accéder à des rêves en même temps que se développer une culture citoyenne. Parce que ce qui est important, c'est aussi de former nos futurs citoyens et de faire de la politique au sens large, c'est-à-dire de s'impliquer dans la vie de la cité. C'est divers et varié, ça peut être pour aider des personnes dans son quartier, ça peut être pour aider à l'international, ça peut être pour partir en vacances, soi-même, comment on s'organise. C'est pour ça que je trouve que c'est un projet qui est très important et il faut le faire connaître parce que les jeunes, sont, quand on leur en parle, sont forcément intéressés et ont envie tout de suite de s'approprier ce genre de projet.
Pour retirer le dossier, par exemple, on en parlait tout à l'heure, donc il faut aller sur quel site ?
Donc c'est le site Junior Association, donc tout de suite arrive la page du réseau national et on voit tous les documents qu'on a besoin, on clique dessus et on peut s'inscrire, remplir les documents, quel que soit le département, parce que là on est sur l'Isère, mais quel que soit le département, on clique dans le département, on a le ou les référents départementaux qui s'affichent et on peut les contacter avec leur mail ou leur téléphone. Alors pour nous, c'est plus facile d'être contacté par mail, parce que c'est difficile, on a plusieurs missions. Mais par contre, par mail, on répond obligatoirement. Jusqu'à présent, je peux aussi dire que c'était compliqué. Et le conseil départemental de l'Isère est en train de prendre conscience que c'est quelque chose qui est très important pour les jeunes et que ça peut être développé. Donc ils nous soutiennent à l'heure actuelle sur 2016 et surtout sur 2017 pour mener à bien ce projet. Parce que financièrement, comme c'est quelque chose qui ne rapporte rien, on n'est pas payé pour être référent, il faut bien trouver des financements pour pouvoir faire cet accompagnement.
Quels sont les projets pour l'année 2017 ?
On peut dire que c'est de monter en gamme le nombre de junior associations, c'est de travailler sur la qualité et c'est si possible fin 2017 d'avoir de nouveaux référents pour faire un pôle de référents, essayer de se partager le territoire pour être plus efficace. Et pour la première fois depuis très longtemps, il y aura une réunion régionale qui va se passer courant janvier-février avec tous les référents désignés des départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça se tiendra à Lyon et je crois que c'est très important qu'on parle le même langage et qu'on se partage les outils. On ne peut plus continuer à travailler chacun dans son coin.
C'était Rémi Bastard, référent départemental des juniors associations, au micro de Estelle Gély. Avant de parler d'un tout autre sujet, l'archéologie dans le territoire, on écoute un extrait de Flavia Coelho. La diva brésilienne a sorti Sonho Real, son troisième album aux accents latins, reggae et pop. Elle se produira le 28 janvier à la SMAC Les Abattoirs à Bourgoin-Jallieu. Flavia Coelho, Chai Venta.
No meio, azeda. minha fraca não dá. Se inventa mil maneiras pra não me cruzar. O diabo tenta, carne fraca não dá.
Flavia Coelho, Shaventa, extrait de son nouvel album Sonio Real. Elle sera en concert à Bourgoin-Jallieu, à la SMAC Les Abattoirs, le 28 janvier.
Et on va maintenant en savoir un peu plus sur le patrimoine historique du Nord-Isère. Mathieu Giraud est allé à la rencontre de Monique Zanettacci, archéologue municipale à Vienne.
Madame Zanettacci, bonjour.
Oui, bonjour.
Tout d'abord, j'aimerais revenir avec vous sur votre parcours.
Alors, moi, j'ai fait surtout des études concernant l'histoire médiévale. Alors évidemment, à l'université, on voit un peu toutes les périodes, mais c'était la période que j'avais choisie en spécialité. Donc, en maîtrise, j'ai fait des études de manuscrits, de la paléographie du Moyen-Âge. Et puis, en thèse de troisième cycle, j'étais à Paris, à l'école des hautes études en sciences sociales, pour faire de l'anthropologie historique, c'est-à-dire l'archéologie vue comme une étude des sociétés anciennes, dans toutes leurs composantes, donc anthropologie comme on peut faire en ethnologie aussi. Et puis j'ai été recrutée à la ville de Vienne, c'était mon premier poste fixe, puisque avant j'avais fait des contrats, des vacations, en 1984, donc il y a assez longtemps.
Quelles sont les singularités de vos recherches et de vos fouilles ces dernières années ?
Alors, on a eu un grand changement en France, c'est la loi de 2001-2003, qui a institué le régime de l'archéologie préventive, donc celle qui doit être faite avant les grands travaux. Et donc, auparavant, on était dans un régime de fouilles qui datait du milieu du XXe siècle. Et ça concernait à l'origine des fouilles qu'on appelle maintenant programmées, qui correspondent à une recherche scientifique, et pas à des études avant destruction de travaux. Et donc, dans cette... Avant 2001, je pouvais faire des fouilles dans la ville de Vienne en embauchant pour chaque chantier pour compléter les équipes. Et puis après 2001, il aurait fallu une équipe beaucoup plus importante à la ville pour avoir l'agrément d'archéologie préventive. Donc depuis cette époque, je m'occupe surtout d'un chantier programmé qui existe dans la ville hein, depuis 16 ans. C'est la fouille d'une ancienne abbaye qui est devenue propriété de la ville de Vienne, donc église avec son cloître. Et puis aussi l'archéologie des murs, c'est-à-dire l'archéologie qui concerne la restauration des monuments historiques, puisqu'on fouille aussi bien maintenant les murs que le sous-sol, et ça donne autant de renseignements si on fait cette archéologie scientifique comme on l'a fait pour le sol auparavant.
Et quel est le procédé, la méthode de datation que vous utilisez ?
Alors ça, c'est comme tous les archéologues. On a d'abord sur le chantier ce qu'on appelle une datation relative. On étudie chaque événement, chaque poche de terre, chaque poche de mortier, comme une unité. Et on met toutes ces unités ensemble en disant c'est avant, c'est après, selon ce qu'on a observé sur le terrain. Voilà, ça nous donne une grande chronologie relative. Et puis, on a ou pas des éléments qui vont permettre de dater vraiment. Donc, on va arriver à une chronologie absolue de certains éléments qui vont nous donner une échelle du temps. Alors, ça peut être aussi bien des monnaies qu'on étudie de manière classique, comme au XIXe siècle, c'est-à-dire qu'on a des référentiels, on sait comment est faite une monnaie d'un empereur romain, on a des petits signes qui nous disent que ça a été fabriqué à telle ville, tel atelier... On a de la céramique qui est entièrement différente selon qu'on est dans du gaulois, du romain, du médiéval de différentes époques ou du 16e, 17e, 18e puisque maintenant on a aussi des référentiels pour cette archéologie des périodes modernes qui n'est pas celle que les objets ne sont pas ceux qu'on trouve dans les musées parce que ce sont des objets du quotidien. Voilà, donc ça c'est des référentiels d'archéologues. Et puis ça présente c'est de la connaissance sur des catalogues, sur des listes qu'on se constitue au fur et à mesure. Et puis en datation de laboratoire, pour les sites que j'étudie moi, c'est des cimetières, on peut faire du carbone 14 sur les os ou sur des charbons de bois, mais en identifiant bien les... les individus qu'on va devoir dater. C'est-à-dire qu'ils sont dans une notre chronologie relative bien précisément installée, il n'y a pas d'ambiguïté, et puis ils sont sur une phase qu'on ne pourrait pas dater autrement. Voilà. Par exemple, dans l'église qu'on est en train de fouiller, on a un cimetière qui existe avant la plantation de l'église. Et puis, on sait qu'à partir du XVIe siècle, cette église de religieuses a accueilli la paroisse. Donc, on délimite le cimetière paroissial. On sait déjà que c'est du XVIe, XVIIe, XVIIIe. On ne va pas chercher une datation. Par contre, sur le cimetière qui était avant l'installation de l'église, là, on va chercher des datations. Parce qu'on n'a pas de référence hors le squelette qui vont nous donner une date. Voilà, on n'a pas de sculpture à côté qui nous donnerait un style. Donc, c'est des études qui sont chères. Les laboratoires qui sont consacrés à l'archéologie n'ont pas tellement de temps non plus. Donc, il y a un calendrier un peu serré. Et donc, on demande des échantillons pour très peu d'éléments, en fait.
Est-ce que vos dernières trouvailles ont permis d'émettre de nouvelles hypothèses par rapport à vos recherches actuellement ?
Alors, on améliore aussi bien en réinterprétant qu'en trouvant.
Bien sûr.
Par exemple, sur la ville de Vienne, on a un site qui a été dégagé dans les années 1950, qu'on appelle le Jardin de Cybèle, où on pensait qu'il y avait un théâtre de Cybèle, donc de ce culte qui venait d'Orient avec un culte à mystère et des représentations privées. Et puis, en avançant dans la connaissance, sans ayant refait de fouilles, puisque le site est déjà fouillé, on le réinterprète comme un site, en fait, de l'Assemblée du Peuple, à l'époque romaine, des Allobroges, donc ce grand peuple gaulois qui est entré dans l'Empire romain avec un territoire qui va de Vienne à Genève. Et donc, il y avait une assemblée de cette cité Allobroges, et on a un petit théâtre de 800 places, et peut-être justement ces chefs de clan, ces chefs de familia à la mode antique qui se réunissaient là pour décider de la vie de la cité. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'on ne l'avait pas interprété comme ça, parce que dans l'Empire romain, cette assemblée-là a la forme d'une curie, c'est-à-dire une pièce carrée dans le forum, et pas du tout d'un théâtre. Ça, c'est une architecture grecque. Donc on réinterprète des sites déjà fouillés selon les connaissances qu'on acquiert au fur et à mesure. Et puis dans les découvertes de fouilles, voilà cette abbaye par exemple qu'on est en train de fouiller, on n'avait aucun renseignement sur l'architecture, sur les dispositions, sur les différentes implantations des différentes phases de l'église, parce qu'il n'y avait rien dans les textes. Donc toute l'architecture des monuments, elle est révélée, et ces différentes phases de construction, c'est révélé uniquement par l'archéologie. Avec, voilà, on retrouve tout ça dans le bâtiment, cette archéologie des murs, et puis on retrouve aussi des éléments dans le sol, qui nous montre que il y avait encore des choses plus anciennes qui ont été remises en fonction, soit dans des tombes, soit dans les murs,
oui, qui sont réadaptées,
où on peut avoir un petit aspect de ce que c'était avant encore.
Bien sûr. C'est une question peut-être un peu plus délicate pour vous, comme vous êtes plus basé sur Vienne. Est-ce que vous avez entendu parler de vestiges qui auraient pu être trouvés dans les alentours de Bourgoin-Jallieu, où est localisée notre radio ?
Alors, il y a des groupes de recherche qui font de la prospection. Alors, je sais qu'ils existent. Et ils retrouvent l'objectif, c'est aussi de retrouver les villas gallo-romaines.
Bien sûr, bien sûr.
Puisqu'on sait que tout le territoire a été couvert par cette exploitation de grands propriétaires terriens, et qui étaient à la fois aussi des grands commerçants, puisqu'ils vendaient leur production jusqu'à Rome. Et voilà, on fait de plus en plus de découvertes de ce style. Et puis, il y a aussi, un peu plus au nord, Panossa, un site archéologique qui a été découvert récemment, qui vient récemment d'être inscrit monument historique, où là, on pense que c'était une station, une étape pour l'armée, peut-être, pour passer de Rome vers la frontière allemande, le Limes, donc la frontière gardée par les troupes dans l'Empire romain. Donc voilà, on a des... On complète un peu cette cartographie de la région. Alors les villas, elles sont connues depuis longtemps, mais il n'y a pas que ça. Donc on établit un peu une répartition entre ce qui se passe sur les grands axes et ce qui se passe dans l'exploitation agricole, en fait.
Pour finir, quels sont les projets, vos missions qui sont prévues pour 2017?
Alors pour 2017, on va continuer l'archéologie en fouilles programmées dans cette abbaye Saint-André-le-Haut. Et puis, comme ça fait une quinzaine d'années que l'on fouille, en novembre 2017, on fera un colloque qu'on appelle international, parce qu'il y aura des Belges, des Suisses, des Italiens, hein, donc la zone proche de notre région à l'est de la France, sur les abbayes féminines. Parce que c'est un domaine qui est peu connu. On connaît les ordres religieux parce qu'il y a beaucoup d'archives sur les hommes, et l'histoire de femmes, comme toujours, elle est en dessous. Il n'y a pas eu beaucoup d'archives, et les archives, c'est les archives du sol. Et on est sur un site exceptionnel en ce sens, puisqu'on a toutes les strates qui sont conservées depuis le XXe siècle jusqu'aux aqueducs romains. Donc voilà, ça c'est un projet scientifique en partenariat avec l'Université Lyon 2 et le CNRS qu'on pourra mener à Vienne, et puis être accueilli dans l'auditorium récemment construit de la médiathèque et du conservatoire de Vienne au quartier Saint-Germain, où sont de très beaux lieux d'accueil pour un colloque.
Je rappelle que vous avez un statut d'archéologue assez particulier.
Moi, je suis à temps plein comme archéologue municipal.
D'accord.
Et j'accueille les étudiants de Lyon 2 en partenariat évidemment avec leurs professeurs pour leur stage validant. Donc aujourd'hui, j'étais avec les étudiants sur un stage de relevé topographique. Donc ils apprennent à travailler avec un théodolite laser, hein, avec un topographe du CNRS, qui vient aussi sur notre chantier faire des relevés quand on est en fouille. Voilà, donc il y a cette part d'accueil, en quelque sorte, des travaux pratiques de l'université que je fais, et puis cet accueil sur une fouille programmée, elle ne fonctionne qu'avec des étudiants en formation.
Merci beaucoup, Madame Zanettacci.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
C'était Monique Zanettacci, archéologue municipale à Vienne, au micro de Mathieu Giraud.
Pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur le 97.1, vous êtes dans l'écho local, une émission consacrée à l'actu culturel de notre territoire, diffusée sur Couleur FM tous les jeudis de midi à 13h et rediffusée les vendredis à 19h, les samedis à 7h et les dimanches à midi.
C'est l'heure de la deuxième partie de notre émission. On part dans le monde de l'art visuel. Place à la rubrique cinéma de Véronique Boulieu.
Merci Estelle, merci Mathieu. Alors tout d'abord, je vais vous présenter mes meilleurs voeux radiophoniques et puis beaucoup d'actualités culturelles cette année, beaucoup d'actualités politiques. Mais on en reparlera effectivement dans l'écho local. On revient au cinéma, le Kinépolis à Bourgoin-Jallieu, notre partenaire. Trois nouveautés cette semaine. Faut pas lui dire, une comédie belge de Florence Circurel avec Jennifer Bartoli, Camille Chamou et Stéphanie Crayancourt. Mes trésors, une comédie française de Pascal Bourdieu avec Jean Reno, Camille Chamou et Rim Kérissi. Primaire, une comédie dramatique française d'Hélène Angèle avec Sarah Forestier, Vincent Elbaz et Patrick Dassume-Sao. L'association Cinéma Hors Piste vous propose deux films, Tang Hang, un film chinois en version originale sous-titrée de Wang Bing, et Sing Street, un film irlandais en version originale sous-titrée de John Carey. Mon coup de cœur de la semaine ira pour le film Le cœur en braille, une comédie dramatique française de Michel Boujna avec Alix Vaillot, Jean-Stan Dupac et Charles Berling. L'histoire, Marie est une adolescente passionnée de violoncelle et elle est très douée à l'école. Victor est un garçon sympathique, dynamique, mais qui connaît des difficultés scolaires. Ignorant que Marie est en train de perdre la vie, Victor tombe amoureux d'elle et petit à petit, à sa grande surprise, Marie se met à l'aider. Lorsque Marie lui révèle enfin son secret, un pacte est conclu entre les deux adolescents. Une belle histoire d'amitié à voir en famille. Pour plus d'informations sur les horaires des séances, www.kinépolis.fr.
Merci Véronique. On marque une nouvelle pause musicale avec le groupe lyonnais de dub hip-hop, le Pub de l'Herbe. Ils fêtent leurs 20 ans de carrière. Ils seront présents le 11 mars à la SMAC Les Abattoirs à Bourgoin-Jallieu.
Yo, I'm a big George man. Donne merci. Yo. Lord of mercy, tossing up your nerve alongside the UK Apache. It's getting mercy.
In a heart that is one with nature, goes a bloody content. There is no violence.
No violence.
And in a heart that is not one with nature, though the body be at rest, there is always violence.
You understand?
Be careful.
Be careful.
Like the cow of a goat, it leaves the water. If it leaves
What we say? Run the track. Yo.
Yo, Joss. Oh, oh, no, man, 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 oh, oh, no, 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 man, 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 oh, oh, no, 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 man, man, man,
Le Pub de l'Herme, No Escape. Ce groupe lyonnais sera en concert pour présenter leur nouvel album qui célèbre 20 ans de carrière le 11 mars à la SMAC Les Abattoirs à Bourgoin-Jallieu. On va maintenant parler sport. Nos petits reporters de l'école de l'INÉ, avec qui nous intervenons dans le cadre d'étapes, temps d'activité périscolaire, ont interviewé le grand sportif berjalien qui a grandi à Champfleury, le boxeur Brahim Asloum.
On a eu l'honneur d'interviewer Brahim Asloum, le célèbre boxeur qui a grandi comme nous à Champfleury.
Moi, je m'appelle Bilal Rigani.
Ouais.
Et vous, est-ce que vous faites vous faisiez de la boxe?
Ouais, j'ai pratiqué la boxe pendant à peu près 16 ans. J'ai commencé, j'avais 14-15 ans, et puis j'ai arrêté, j'en avais une trentaine. J'ai été champion de France, champion d'Europe, champion du monde et champion olympique.
Bonjour, moi je m'appelle Adem Adjamor.
Bonjour.
Pourquoi vous avez choisi la boxe ?
Sincèrement, en fait, je pense que c'était le plaisir de voir s'exprimer sur le ring. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est un petit jeune de 8 ans qui boxait. Moi, j'en avais 14 et j'ai trouvé ça tellement beau ce qu'il faisait sur le ring et d'avoir vu des spectateurs se lever pour l'applaudir. Là, à ce moment-là, je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire demain, quoi.
Bonjour, je m'appelle Mohamed Kiresh.
Bonjour.
C'est qui t'a appris la boxe ?
Alors moi, je me suis entraîné, j'ai commencé la boxe au ring bergalien avec Papou, qui entraîne toujours au ring bergalien, et c'est lui qui m'a fait découvrir ce sport.
Peux-tu nous parler de ton expérience au cinéma ?
Mon expérience au cinéma s'est super bien passée, ça a été vraiment une belle expérience. J'ai rencontré plein de gens intéressants, un milieu que je ne connaissais pas, qui était différent de celui du sport, mais qui était assez commun, en tout cas assez qui se ressemblait énormément dans le sens où on travaillait en équipe. Et quand t'es sur le ring, avant d'être sur le ring pour un combat, et ben en fait tu travailles avec toute une équipe autour de toi qui t'aide à être le meilleur. Et là c'était pareil, donc j'ai trouvé beaucoup de choses qui ressemblaient à mon sport.
Et combien vous avez gagné de médailles ?
Des médailles dans les tournois internationaux, j'en ai gagné plein. Je les ai pas spécialement comptées. Mais ma plus belle médaille, c'est ma médaille de champion olympique à Sydney, en Australie.
As-tu perdu des championnats ou des combats ?
J'ai perdu quelques combats chez les amateurs. Et puis quand je suis passé professionnel, j'ai eu 2 petites défaites. Donc comme quoi, ça ne veut pas dire qu'on perd, qu'on est mauvais. Des fois, ça nous aide à mieux repartir. C'est ce qui s'est passé pour moi. Donc il faut travailler, travailler, travailler. Et croire en soi.
À quel âge as-tu fait ton premier combat ?
Mon premier combat amateur, j'ai dû le faire, je devais avoir 15 ans. C'était à Grenoble.
En ce moment, as-tu des championnats ou des combats ?
Moi, j'ai arrêté la boxe, ça fait maintenant 4 ou 5 ans. Mais je suis toujours dans le monde de la boxe, mais aujourd'hui en tant que dirigeant.
Papou, il habite à Chauffleury. Vous avez commencé vos expériences à Chauffleury ?
Ouais, moi je suis né à Chauffleury, à Bourgoin-Jallieu. J'ai grandi là-bas jusqu'à mes 16 ans. J'étais à l'école là-bas et j'ai commencé la boxe là-bas à Bourgoin, avec Papou.
As-tu fait un autre sport avant que la boxe ?
Ouais, je faisais plein de sports, j'aimais bien le sport moi. Donc j'étais bon au football, au hand, au rugby, mais j'étais pas très costaud, donc la boxe me convenait mieux. Je me suis rendu compte que j'aimais bien les sports individuels. Mais j'ai pratiqué plein de sports collectifs avant.
On vous remercie de nous avoir écoutés pour la radio Couleur FM.
Ça a été un moment très plaisant pour moi aussi, et merci pour vos questions. Félicitations à vous.
Ibrahim ?
Oui.
Est-ce que Kamel, il dit quelque chose ?
Kamel Asloum ?
Oui.
C'est mon grand frère, quand même. C'est lui qui a le...
Et Rihanna,
qui est au-dessus de moi.
Et Rihanna ?
Et Rihanna, c'est ma petite nièce préférée.
Merci.
Merci.
Merci. Merci. Merci à vous. Merci.
Au revoir.
Au revoir. Bonne fin de journée.
Merci.
Merci. C'était Adem, Mohamed et Bilal qui ont interviewé le grand boxeur français originaire de Bourgoin-Jallieu, Brahim Asloum.
C'était nos petits reporters de l'INE à Chanfleury avec en interview Brahim Asloum. Vous êtes dans l'écho locale sur Couleur FM, les températures continuent de chuter dans le territoire. La préfecture de l'Isère vient d'activer mercredi 4 janvier le niveau 2 du plan grand froid.
En effet, le préfet a décidé de renforcer les capacités d'accueil et d'hébergement. 120 places supplémentaires sont rajoutées dans 2 gymnases, des bains et fontaines.
Et puis, si jamais vous avez besoin d'un numéro d'urgence, je le rappelle, c'est le 115. Pour terminer ce menu radiophonique, Mathieu quitte un petit instant notre territoire et nous emmène en balade sonore. Alors Mathieu, où va-t-on aujourd'hui ?
Le froid est là, comme on l'a dit. Je vous propose de partir entre les États-Unis, la Jamaïque et Paris avec la chanteuse Shola Adissa Farrar. Elle a sorti son premier album Jazzy Soul avec Florian Pellissier Quintet. C'est mon disque de cette semaine.
Dans ce monde, les disques vinyles sont fabriqués comme des crêpes.
Toi, qu'est-ce que c'est ?
C'est pour moi le plus beau de la semaine.
Le disque
de la semaine.
Il suffit parfois d'une rencontre pour créer un disque mémorable. C'est le cas de Lost Myself de Shola Adissa Farrar et Florian Pellissier Quintet. Originaire d'Auckland, la chanteuse Shola Adissa Farrar a baigné dans un univers artistique influencé par ses origines jamaïcaines et les classiques jazz-soul qu'écoutaient ses parents.
Elle commence à chanter dès son plus jeune âge. Après des études musicales à New York, elle s'installe à Paris et développe son style vocal à mi-chemin du jazz et de la soul. Florian Pellissier, quant à lui, pianiste et compositeur parisien, pratique un hard bop groovy avec son quintet tout en collaborant avec des artistes tels que Guts, Setenta, Camaro Orchestra. Réunis par Rod Casa Records, ces deux artistes présentent aujourd'hui Lost Myself, un superbe album de jazz vocal spirituel influencé par le hard bop groovy et le jazz soul des années 60. Chola Adissa Farah interpelle par sa voix distincte et percutante. Installée à Paris où elle affine son style musical empreint de jazz, de soul et d'influence caribéenne qui va de pair avec son comparse Florian Pellissier. Les deux artistes débutent leur collaboration en 2013 qui aboutit aujourd'hui à un répertoire riche alternant entre reprises de grands standards du jazz et compositions originales comme par exemple cette reprise singulière de Feeling Good. Cet album enregistré en live et dans l'air des studios analogiques apporte quelque chose de pur. Quant à cela, on rajoute les notes de sax écorchées de Christophe Panzani, le quintet puissant de Florian Pellissier et la voix envoûtante et suave de Chola. On ne peut que être séduit par cet album de qualité. Au cœur de l'Atlantique noir, comme dirait le sociologue anglais Paul Gilroy, entre l'Afrique, les Caraïbes et l'Amérique, le son de Lost Myself, en plus d'être profond, groove énormément. Passe d'univers jazzy hip-hop avec les paroles engagées et sincères de Chola. My voice sings for you, melody so pure, I know it's true. Hand in hand, visions too, what my life will be with you. Your arms hold me tight, never knew a love so deep in my life. Custom made just for me. À des univers baignés de rythmiques complexes oscillant entre la soul, le jazz, frôlant parfois les univers reggae, où Chola nous guide par sa voix mielleuse. Up this evening, no doubt, no dread, clear way. Chola Adissa Farah et Florian Pellissier Quintet apportent une fraîcheur dans le monde du jazz avec Lost Myself. Un album aux détails minutieux, rempli d'émotions, nourri de multiples influences, avec une voix qui va désormais marquer le monde du jazz et de la soul. Il est sorti ce mois sur le label de notre ami Julien Lebrun de Haute Casa Records, un disque qui annonce l'été avec réussite. Je vous retrouve après un dernier extrait de Lost Myself de Chola Adissa Farah et Florian Pellissier Quintet, avec Sorrow, Tears and Blood. Some people lost some bread. Someone nearly died. Someone just died. Please, them come, army them come. Confusion everywhere. Hey, yeah.
die. Someone just die. Please them come, army them come. Confusion everywhere.
C'était Shola Addis Afarar, Sorrow, Tears and Blood, extrait de son premier album Lost Myself avec Florian Pellissier Quintet, sorti sur le label parisien Odd Casa Records, mon coup de cœur de cette semaine.
Cinéma, concerts, ateliers, vernissages, il se passe beaucoup de choses dans le coin, on vous a sélectionné quelques petites sorties à ne pas manquer, place à l'agenda.
Vie politique, c'est la rentrée dans le Nord-Isère, pour nos maires également. Ne manquez pas les cérémonies des vœux aux habitants en présence du maire de Bourgoin-Jallieu et du conseil municipal. Cela aura lieu ce samedi 7 janvier à la salle polyvalente à partir de 18h.
Si vous êtes à Lille d'Abo, rendez-vous aussi ce week-end, le samedi 7 janvier dès 19h à la salle de Lille, 15 avenue du Bourg. Du côté de Villefontaine, les vœux du maire ont lieu ce dimanche 8 janvier à 11h au théâtre du Velin à Lille d'Abo. Et du côté de Saint-Quentin-Falavier, monsieur le maire Michel Baconnier et le conseil municipal présenteront leurs vœux dimanche 8 janvier à 11h au Médian. Et enfin, Fabien Rajon, maire de la Tour du Pin, présentera ses vœux le 13 janvier à l'équinoxe dès 19h.
Culture musique, du 20 janvier au 5 février, c'est la 12e édition du festival Semaine Contemporaine, organisé par le conservatoire Hector Berlioz, au programme Théâtre Percussif, Musique du Monde ou encore de la Danse. Les abattoirs de Bourgoin-Jallieu vous présentent une soirée rock et gratuite avec deux groupes, Nohoy et GHST. Pour y assister, rendez-vous le jeudi 19 janvier, début du concert à 20h30. Et le 28 janvier, à la même heure, Flavia Coelho, qu'on a entendu dans notre émission, jouera son nouvel album Sonio Real.
La compagnie Tiens-toi droit présente son spectacle Meux, un spectacle mélangeant théâtre et marionnettes pour tout public. C'est à découvrir le dimanche 5 février, salle des Ifs à Saint-Jean-de-Bournay, dès 16h.
Sport, la fraternelle de Bourgoin-Jallieu présente son gala Danse avec la frate, le samedi 14 janvier 2017 au Palais des Sports, dès 19h30.
Et prochain match pour le CSB Chy, le club berjalien affronte Carcassonne ce vendredi 13 janvier à 20h au stade Pierre Rajon à l'occasion de la 17e journée du championnat Pro D2.
L'écho local touche bientôt à sa fin. Retrouvez nos émissions également sur le site internet de Couleur FM ou en rediffusion le vendredi à 19h, le samedi à 7h et le dimanche à midi. Une émission présentée par Estelle Gély
et Mathieu Giraud pour la dernière fois.
On termine avec la citation du jour présentée par Véronique Boulieu.
Alors ma citation du jour, elle est de circonstance. Une bonne année répare le dommage des deux dernières mauvaises. Et c'est une citation de François-Marie Arouet, plus connu sous le nom de Voltaire. Voltaire qui fut un homme du XVIIIe siècle qui a influencé les Lumières et reste encore aujourd'hui comme un modèle d'humanisme, notamment avec ses fameux écrits Candide. Alors effectivement Mathieu, vous allez quitter cette émission.
Effectivement, d'ailleurs je tiens à vous tous vous remercier, merci Véronique, merci à vous tous pour votre écoute, c'était l'écho local, je rappelle, le menu radiophonique consacré à notre territoire, merci Estelle Gély, merci William à la technique, pour ma part donc c'est ma dernière apparition dans l'écho local, je m'envole vers d'autres horizons.
On ne sait pas encore lesquels.
Je reviendrai peut-être. Je tiens à remercier particulièrement Thierry Borde, président de l'association Jacasse de la radio Couleur FM, pour m'avoir déjà fait intégrer la radio et pour ses précieux conseils. Et bien sûr, Véronique Boulieu, qui est avec nous, directrice, le maître du son, Laurent Fourcheron, et toute l'équipe de Couleur FM. Chères auditrices et chers auditeurs, ce n'est qu'un au revoir. Très bonne année 2017. Et on termine avec le coup de cœur musical de Véronique Boulieu, Pitbull, qui passeront ce printemps aux abattoirs à Bourgoin-Jallieu.
Originaire de Chambéry, les Savoyards de Pitbull ont fait naître un savoureux style, mélange de genres qui a priori n'aurait pas dû s'entendre, tels la poule et le pit. Et c'est là toute la magie de cette fusion étrange et entraînante qu'est le hip-hop manouche. Pitbull, c'est le coup de cœur de Couleur FM, le titre choisi Pitbull, extrait de leur album Sans cesse.
On voulait faire un mélange du tonnerre décapant, un truc musical qui décapule en gueulant du genre. Wow, c'est quoi ce nouveau style du new pop indie balkano-sceptique, mais plus facile à dire qu'à faire. Alors ferme ta gueule, travaille et pose ta bière. Ouais, Django, ça me botte, mais ça manque un peu d'infra, il nous faudrait du lourd. Qu'on sorte les doigts, j'ai pas moi, une sorte de gros son basse-patte, un truc de rappeur américain qui déboîte, ça ferait Pitbull, Pirelli avec des Nike Air. Pitbull, Django, une casquette à l'envers. Pitbull, Dr. Dre qui tient la pompe. Pitbull, Tupac en ressort de sa tombe. Pitbull, des néons sous ma caravane. Pitbull, une bim tirée par un âne. Soin de tes mains, pas de tabou entre nous ce soir. On fait qu'un, on laisse la thune, le brillant au vestiaire. On va pas faire les malins à se la jouer gangster. On a que des chaînes de vélo et en plus elles sont rouillées. On a pas de chien méchant, on a juste un poulet, mais c'est une poule de combat. Entraîné pour tuer, y'a plus un seul asticot. Dans tout le quartier, on va mettre les choses au clair. Dès le début, y'aura pas de filles à poil. Nos sœurs, elles ont pas voulu, on a pas de grosse bagnole. Jantes, elles rentrent du nez, on a qu'un tricyclope qu'on est obligé de pousser. Pas de tabou entre nous, c'est à l'âge qu'on vient chanter du hip-hop manouche. De la musique frelatée, c'est Pitbull, Pirelli avec des Nike Air. Django, une casquette à l'envers. Dr. Dre qui tient la pompe. Tupac en ressort de sa tombe. Des Léons sous ma caravane. Pitbull.